Podcast sur la pédagogie de l'éducation musicale par Christophe Lazerge. Aujourd'hui, le travail musical à la maison en question. Peut-on demander aux enfants de travailler la musique à la maison? La question ne date pas d'hier. À l'évidence, l'apprentissage d'un instrument de musique ne donnera satisfaction à l'élève que s'il y consacre un certain temps. Je mets tout de suite en avant la notion de satisfaction et non de résultat. En effet, les résultats peuvent être objectivement modestes si on les compare à d'autres, mais avoir une grande valeur pour soi-même s'ils constituent un progrès que l'élève peut lui-même mesurer, ou au moins ressentir. Nous avons tous entendu vanter les mérites de quelqu'un qui joue merveilleusement d'un instrument et qui a appris tout seul, ou bien qui n'a jamais pris de cours, et plus fréquemment encore, qui n'a jamais fait de solfège, et donc ne sait pas lire la musique. Arrêtons-nous un instant sur ces êtres merveilleux qui n'ont jamais travaillé la musique. Par quel prodige sont-ils donc capables de nous enchanter les oreilles avec leur instrument ? Se sont-ils réveillés un matin en sachant jouer de la guitare ou du piano ou de l'accordéon ? Non, je ne crois pas. En revanche, ils ont tous passé un temps considérable à essayer des trucs avec leur instrument de prédilection. De prédilection, oui, parce qu'ils l'ont choisi, soit pour imiter quelqu'un qu'ils aiment ou qu'ils admirent, soit parce que le son, le timbre particulier de cet instrument ou le style de musique par lequel ils l'ont rencontré les ont accrochés, captivés, au point de chercher par tous les moyens à se l'approprier. Laissons de côté la question de l'acquisition de l'instrument. Une fois en main, cet autodidacte passera tout son temps libre à maîtriser cet instrument. Quel est donc le moteur de l'apprentissage ? La motivation, bien sûr. Et parlant de la musique, le plus sûr moteur est l'intérêt pour le son, voire l'amour du son. Ceci suppose qu'en l'absence de professeurs de musique, nos musiciens autodidactes aient eu un contact avec le son, soit par une imprégnation familiale, soit par le choc d'une rencontre révélatrice. C'est une des nombreuses vertus de la musique que d'être accessible à tout être humain, quelle que soit son origine sociale ou culturelle. Il n'y a pas de limite ni de contre-indication à la pratique musicale. Elle est universelle. Alors, quels sont les freins et surtout, quels sont les remèdes pour favoriser cet apprentissage ? Malgré cette universalité, les freins sont nombreux et je ne suis pas sûr d'en faire le tour. Je suggère donc quelques solutions pour les dépasser. Tout d'abord, l'imprégnation. Si personne dans la famille et les proches ne pratique la musique, chant et ou instrument, la musique sera souvent réduite à la radio ou la télévision, en bruit de fond ou en course à la performance, comme dans des émissions du type Star Academy. Ce qui importe pour nous, c'est la relation active, vivante avec le son, la vibration, et donc une proximité physique avec la source de ces vibrations, associée au cadre dans lequel elle se déploie, et au plaisir que communique celle ou celui qui chante ou qui joue. Les parents de l'enfant sont donc les mieux placés pour partager leur plaisir. Il ne s'agit pas là de performance ni de qualité du son, mais de l'engagement et du plaisir partagé. Les parents chantent soi-disant faux, qu'importe. S'ils ont du plaisir à chanter, c'est ce plaisir qui sera communicatif. Cette action partagée, même maladroitement au plan purement musical, vaut bien plus que de mettre un CD pour l'enfant et faire autre chose pendant ce temps-là. Cette imprégnation commence dès la naissance de l'enfant et même avant, puisque l'oreille est le premier organe sensoriel du fœtus achevé définitivement à environ 4 mois et demi de gestation. Ainsi, la voix et le chant de la mère, en premier lieu, et aussi des personnes vivant à proximité, constituent cette première imprégnation passive pour l'enfant, active pour les autres. Entendons-nous bien, je me garde bien de donner des leçons de morale à qui que ce soit, et en ce domaine comme dans tant d'autres, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, sans parler de leurs enfants. Il s'agit ici seulement de comprendre ce qui construit l'enfant dans son rapport au son et à la musique pour mieux adapter notre comportement personnel dans cette direction. Nous passons donc de l'imprégnation musicale à l'éducation musicale. L'imprégnation musicale, si elle commence très tôt, peut durer très longtemps et, suivant le cadre familial, constituer déjà une véritable éducation musicale. Tout comme le langage. Cependant, il y a une différence fondamentale entre les deux. L'imprégnation est, entre guillemets, passive, tandis que la pratique du langage maternel ou musical est, entre guillemets, active. Je mets des guillemets à passive et active parce qu'en réalité, l'imprégnation, comme la pratique, procède toutes les deux de passivité et d'activité. Edgar Willems parle très bien de la réceptivité active. Ce n'est pas parce qu'on ne bouge apparemment pas qu'il ne se passe rien dans le corps et dans le cerveau. À l'opposé, l'attente d'une réaction des parents ou de l'auditeur quand on parle ou qu'on joue, c'est-à-dire qu'on bouge, effectivement, visiblement, ne relève-t-elle pas de d'une certaine passivité ? Ceci pour bien nuancer mon propos, car tout est relatif. Considérons donc que l'éducation musicale est plus active par le fait de l'expérimentation et de l'imitation. Bien que réduite à 3 éléments constitutifs, la musique n'en est pas moins complexe, et l'éducation musicale parentale sera généralement très globale, souvent incomplète, mais pas moins souhaitable. Pour compléter cette imprégnation et cette éducation musicale familiale, il est assez normal et je trouve assez sain de s'adresser à des professionnels qui ont réfléchi à la question et qui vous proposeront un programme, une progression tout à fait adaptée à votre enfant. Il s'agit donc, en général, d'une école de musique. C'est une bonne solution d'inscrire son enfant à des cours d'éducation musicale, en l'absence notamment, regrettable, de ce genre de cours à l'école maternelle et primaire, ou en complément de ceux-ci. Mais ça représente vite un gros budget pour les parents, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre question du jour, et j'y reviendrai. Dès lors qu'ils ont inscrit leur enfant dans une école de musique, les parents agissent par délégation, ce qui est tout à fait normal et même souhaitable de mon point de vue. Voir l'histoire du cordonnier mal chaussé. Nous faisons très souvent un parallèle entre l'éducation musicale à l'école de musique et l'éducation générale à l'école maternelle, de même que entre la musique et le langage. Les enfants qui sortent de l'école maternelle ont-ils des devoirs à faire à la maison ? Dans les consignes officielles en France, non. Pas même à l'école primaire, où ils peuvent avoir des leçons orales à réviser, mais pas de devoirs écrits à faire à la maison. Ces consignes sont très rarement respectées à l'école primaire, ce qui transforme les parents en répétiteurs, voire en professeurs adjoints, sans formation. D'ailleurs, ils s'en sont bien rendus compte, ces parents, pendant les confinements liés au Covid. Et pour les enfants, ce travail à la maison est autant de travail en plus dans la journée, au détriment de leurs besoins de détente et de repos. Qu'en est-il pour la musique ? Ici, je me place résolument du point de vue willemsien que j'ai pratiqué plus de 40 ans. La réponse dépend de l'âge et du degré que suit l'enfant, sachant que les cours sont généralement hebdomadaires et de courte durée proportionnellement au temps scolaire. Qu'en est-il pour les enfants entre 3 et 5 ans ? Quel travail à la maison pour ces enfants qui seraient en premier degré d'éducation musicale Willems ? Chanter et apprendre des chansons. Encore faut-il savoir lesquelles. À l'école de musique Rimea, nous avons constitué au fil des ans des classeurs de chansons triés par ordre alphabétique. Chaque fiche présente une seule chanson, partition de la mélodie et des strophes ou couplets complets s'il y en a. Il reste toujours de la place blanche sur la page pour que l'enfant puisse l'illustrer à sa guise et se l'approprier. Un simple gribouillis suffit, car le gribouilleur saura très bien distinguer celui correspondant à la chanson de la perdrix de celui correspondant à la chanson de l'avocat. Les professeurs peuvent photocopier ces chansons apprises pendant les cours et les distribuer aux enfants. Ces feuilles doivent ensuite être collées dans un grand cahier de feuilles blanches du type qu'on trouve dans les fournitures d'école maternelle. Ainsi, les enfants peuvent-ils fabriquer leur propre cahier de chansons. Et ce cahier les suivra tout au long de leur formation musicale, et même lors des débuts instrumentaux, et plus tard, leur donneront de bons souvenirs. Le travail à la maison consistera alors à coller les feuilles au fur et à mesure, les illustrer et les chanter. Chanter les chansons qui ont déjà été apprises durant les cours. En feuilletant leur cahier, ils retrouveront toutes les chansons apprises, et pas seulement celles qu'ils aiment particulièrement parce qu'ils la connaissent mieux. Certains professeurs enregistrent aussi ces chansons pour que les enfants puissent les écouter et chanter en même temps à la maison, ce qui permet aussi aux parents qui ne lisent pas la musique de les apprendre et de chanter avec leur enfant. Il existe aussi quantité d'enregistrements de chansons enfantines sur Internet. Les arrangements, harmonisations et orchestrations ne sont pas toujours à mon goût, mais c'est toujours mieux que rien, à condition de chanter avec son enfant au moins au début. S'agit-il vraiment d'un travail ? Je dirais plutôt un temps de partage et de complicité entre les parents et leur enfant. Alors, quel travail pour les enfants à la maison quand ils ont entre 4 et 6 ans et qu'ils sont en deuxième degré d'éducation musicale Willems ? Une des caractéristiques de ce deuxième degré Willems est l'introduction de graphismes liés aux mouvements sonores et aux diverses qualités du rythme, dynamique, agogique, principalement, pour l'écrit. Ces graphismes sont d'abord présentés en cours, au tableau, puis réalisés sur des ardoises ou des feuilles, ou directement dans des cahiers blancs du même type que celui dont je parlais pour les chansons. Des feuilles de modèle peuvent être aussi distribuées aux enfants, à coller à la maison dans le cahier et à relire en chantant ou en frappant. On peut aussi demander aux élèves de repasser au crayon sur des motifs, les recopier et, bien sûr, d'en inventer. Comme pour le cahier de chansons, l'élève doit emporter le cahier chez lui pour faire le travail demandé et le rapporter au cours suivant pour le présenter au professeur, notamment pour les dessins d'illustration et les inventions. Peu importe en réalité que l'enfant rechante parfaitement juste à la maison ou se trompe de sens en relisant ses graphismes, tout ceci s'arrangera petit à petit. Par contre, il prend l'habitude d'avoir un matériel spécifique pour la musique et de passer un peu de temps à la maison pour ça entre les cours. Je ne dis pas que tous mes élèves l'ont toujours fait, loin de là, mais c'est un rituel à installer ou au moins à proposer aux familles. Maintenant qu'elles travaillent à la maison pour des enfants qui ont entre 5 et 7 ans et sont en troisième degré d'éducation musicale Willems. Si l'habitude a été prise avec ses cahiers dès le début, il est assez naturel de le poursuivre avec des fiches de chansons et des fiches correspondant au début de la lecture et de l'écriture musicale. Copie, invention, etc. Il est évidemment illusoire de croire qu'on peut apprendre à lire et écrire la musique en seulement 15 minutes par semaine, ce qui est le temps globalement consacré à ça dans les cours d'éducation musicale. Même si les symboles musicaux de la lecture sont peu nombreux comparés à la langue maternelle, nous avons 7 noms de notes contre 26 lettres, il faut du temps pour se les approprier et les pratiquer. Remplir sa fiche de travail 5 minutes avant le cours n'a pas de sens de ce point de vue, même si je l'ai souvent vu faire. Ça me montrait alors simplement quelle était la place accordée à la musique à la maison, ou en tout cas à ce travail musical, et donc à la nécessité pour moi de mieux communiquer sur ce point avec les parents, via les nounous la plupart du temps, ce qui complique un peu les choses. Au troisième degré, il est également introduit la pratique du carillon. Nous travaillons avec un carillon chromatique, car il a la même structure qu'un clavier de piano. Ces carillons sont coûteux et peu répandus dans le commerce. Nous avons peu à peu constitué à Rimea un stock d'instruments que nous louons symboliquement aux familles pour que les enfants puissent s'exercer à la maison. Encore faut-il que cet instrument ne reste pas dans sa boîte au fond d'un placard. Dès lors, quel est le travail? Eh bien, explorer l'instrument, inventer, essayer de retrouver des chansons, etc. En bref, que du plaisir. Enfin, ça devrait. Et pour les enfants à partir de 6-7 ans, qui entrent en quatrième degré d'éducation musicale Willems, c'est-à-dire dans le solfège. Alors, ce quatrième degré comprend non seulement le cours collectif de solfège, mais aussi un cours individuel d'instruments auxquels peuvent s'ajouter, et c'est souhaitable, des ateliers instrumentaux et du chant choral qui, eux, seront collectifs. Qu'en est-il alors du travail à la maison? Eh bien, tout dépend de la matière considérée. Pour le solfège, en toute logique, dans le prolongement du troisième degré, le solfège demandera un temps de relecture musicale de ce qui a été lu et étudié en cours, et éventuellement la préparation d'autres lectures rythmiques, mélodiques ou polyphoniques. Pour l'écriture, il sera généralement demandé de copier une lecture ou une chanson, ou de compléter une ordonnance mélodique, etc. Comme pour tout apprentissage, l'important n'est pas tant la quantité que la régularité. Ah, apprentissage, le mot est sorti tout seul. En effet, nous ne sommes plus ni dans l'imprégnation, ni dans l'éducation musicale générale, mais nous entrons bien dans une période d'apprentissage qui va durer plusieurs années et peut-être même davantage. Qu'est-ce qui différencie l'apprentissage de l'éducation? L'acquisition d'automatismes. Et pour acquérir des automatismes, il faut beaucoup répéter. Pensons à l'apprentissage des tables de multiplication. Combien d'années faut-il pour qu'elles soient vraiment assimilées? Il en est de même pour les automatismes de lecture musicale, notamment pour la lecture absolue dans différentes clés. Nous pratiquons, comme le suggère Edgar Willems, la mémorisation absolue de points de repère dans la portée, d'une part, et la lecture relative musicale d'autre part. Le professeur aura beau présenter une progression adaptée au niveau de ses élèves, si ceux-ci ne pratiquent pas à la maison la lecture et son corollaire l'écriture, ils mettront beaucoup plus de temps à acquérir les automatismes de base, ce qui est regrettable. Qu'en est-il du travail instrumental ? J'ai été très surpris la première fois que des parents d'élèves ont inscrit leur enfant à des cours de piano sans imaginer qu'il fallait aussi un piano à la maison. Depuis, ça m'est arrivé assez souvent, et je le précisais d'emblée. Le plus déconcertant était l'explication suivante. On veut d'abord savoir si ça lui plaît. Bon, d'accord, mais comment savoir si ça lui plaît s'il pratique cet instrument seulement 30 minutes par semaine avec un professeur? Comment peut-il apprivoiser cet instrument, cet enfant? Dans ce cas, on comprend que la musique est une activité comme une autre, qui vient remplir l'emploi du temps d'un enfant qui doit être occupé. Mais la musique n'est pas une activité comme une autre. Elle est gratifiante à proportion de l'exigence qu'elle requiert. D'ailleurs, ce n'est pas la seule activité qui exige du temps. J'ai eu une élève, par exemple, qui faisait du patin à glace 2 heures par jour, 4 fois par semaine. C'était la condition imposée par le club pour pouvoir y participer, et les parents ne remettaient pas en cause une telle exigence, parce qu'elle faisait partie du contrat. Il n'y avait plus beaucoup de place pour une pratique instrumentale quotidienne, en plus du travail scolaire. Ah, là encore, le mot est sorti tout seul. Quotidienne. Oui, il faut pratiquer quotidiennement son instrument, pour y trouver du plaisir. Est-ce à dire qu'on doit souffrir un certain temps avant ce moment de grâce? D'aucuns le pensent, pas moi. C'est pourquoi j'ai commencé ce passage en revue par l'initiation. Si l'intérêt pour le son, l'amour du son, n'ont pas été déclenchés à un moment ou à un autre, ce n'est pas en répétant des exercices et des gammes que ça viendra. Cependant, même avec l'accompagnement recommandé précédemment, ça ne va pas tout seul. Il faut ritualiser le temps de travail à la maison. Naturellement, chaque famille a ses habitudes d'organisation ou de désorganisation, et je ne fais que suggérer une solution éprouvée. Organiser l'emploi du temps des enfants pour quand ils rentrent de l'école. Et quand une organisation marche bien, la ritualiser. Ça évite de se poser des questions et ça facilite le travail pour tout le monde. Par exemple, de retour à la maison, goûter, détente pendant 30 minutes. Puis, travail pour l'école, les leçons, les devoirs, une trentaine de minutes. Puis, le travail musical, de 10 minutes à 30 minutes suivant le degré, comprenant la lecture, l'écriture et le travail instrumental qui, lui, devrait durer au minimum 15 minutes au début. Ensuite, on passera à la toilette et au dîner, puis à nouveau un petit temps de détente et coucher. Certains enfants vont très vite pour leur devoir d'école. D'autres, au contraire, y passent une heure, voire davantage. Entre parenthèses, ce qui est mauvais signe sur ces apprentissages pendant le temps scolaire. Il est pourtant fréquent que les enfants qui font de la musique aient moins de difficultés scolaires, car ils apprennent avec la musique à écouter, à se concentrer, et l'apprentissage de l'écriture musicale est une très bonne préparation à l'apprentissage de l'écriture de la langue maternelle. Il nous est arrivé très souvent d'avoir des élèves qui commençaient à lire la musique avant leur langue maternelle. Un autre atout que nous avons pour la musique, c'est l'improvisation. C'est une des clés principales de l'apprentissage musical, et notamment de la pratique instrumentale. Est-ce vraiment travailler quand on peut faire ce qu'on veut, n'importe quoi? Oui, car ce n'est pas quand on sait qu'on improvise, c'est en improvisant qu'on apprend. Reprenons notre parallèle avec l'apprentissage du langage maternel. L'enfant commence par balbutier, puis répéter des mots, les associer, les utiliser un peu à tort à travers, ce qui est toujours très plaisant et d'avoir des mots d'enfant pour les parents. Puis à force d'expérimentation, de répétition, de correction par son entourage, il progresse dans le langage parlé. Puis il apprend la lecture, la grammaire, l'orthographe, puis il entre progressivement dans la littérature, alors que dans le même temps, il rédigera des rédactions qui deviendront plus tard des dissertations, etc. C'est exactement la même chose en musique, sauf que cette expérimentation s'appelle improvisation, que les rédactions seront des inventions et les dissertations des compositions. Pour conclure, si cette question du travail des enfants en musique ne date pas d'hier, elle se pose de plus en plus souvent, car on considère que la musique est un loisir et donc ne doit coûter aucun effort, car les enfants sont déjà soumis à beaucoup de contraintes, inutile d'en rajouter en plus de l'école. D'autre part, si l'école laïque est gratuite, il n'en va pas de même pour l'école de musique. Alors non seulement il faut payer, mais en plus il faut faire travailler ses enfants. Aujourd'hui, plus qu'hier, les parents cherchent des activités ludiques pour leurs enfants. La musique doit d'abord remplir cette fonction. C'est pourquoi j'ai toujours insisté pour conserver le titre d'école d'éducation musicale plutôt que école de musique, en ce qui concerne Rimea notamment. Et quand les parents me confiaient leurs enfants pour un cours en leur disant « Allez, amuse-toi bien !» Je les reprenais en disant « Dites plutôt, travaille bien !» J'ai vu dernièrement le film « La nouvelle femme » en version française, qui est sorti en 2023, de Léa Todorov, qui raconte les débuts de Maria Montessori. À un moment, c'est un très beau film. À un moment, elle reprend une nourrice qui disait « Il joue avec ça pendant des heures !» Et Maria Montessori répondait « Non, il ne joue pas, il travaille. » Car tout ce que fait l'enfant contribue à sa construction. Alors, n'ayons pas peur des mots. Travailler a aussi un sens noble. Le travail à la maison est donc indispensable à une bonne pratique musicale et instrumentale. On travaille bien la terre pour la faire fructifier et on travaille une œuvre musicale pour mieux la restituer et grandir avec elle, ce qui alimentera notre mémoire et nos possibilités d'improvisation, voire de création musicale. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouvez ce texte intégral sur le site de pidgeyki.fr dans l'onglet de pédagogie. Et naturellement, je vous invite à vous inscrire à mon blog pour les écoutes musicales. À bientôt !